France Culture.
Sculpture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors qu'Emmanuel Macron avait parlé du défi du siècle en évoquant la crise climatique, le Premier ministre François Bayrou n'y a consacré que quelques secondes, moins de deux minutes dans son discours de politique générale le 14 janvier dernier et au bout d'une heure seulement. C'est le paradoxe que soulignent les journalistes Audrey Garic et Mathieu Gouard dans un article qui a paru dans le journal Le Monde le 17 janvier dernier, ainsi que celui plus inquiétant encore d'un désengagement des Français face aux enjeux qui soulèvent le réchauffement climatique. Alors peut-on vraiment parler d'indifférence climatique? Comment expliquer le paradoxe entre l'urgence climatique et le désintérêt d'une partie des Français pour ces enjeux environnementaux? Pour tenter de travailler ce concept et de répondre à ces questions, Théodore Talland, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Vous êtes enseignant et spécialiste des questions climatiques. Merci d'être ce soir au micro de Questions du Soir.
L'écologie, au contraire de ce que certains pensent, ça n'est pas le problème. C'est la solution, en tout cas, la solution que nous privilégions. L'effort à mener sur ce sujet crucial doit être poursuivi et amplifié. Planifier la transition en finalisant notre stratégie bas carbone, préserver notre biodiversité, produire de façon décarbonée grâce à des technologies nouvelles. Pour y parvenir, la production d'électricité d'origine nucléaire est un axe essentiel et la géothermie sous nos pieds, réservoir inépuisable de calories gratuites et d'ailleurs aussi de frigories sous nos pieds, l'est aussi. La question de l'eau, nous devons la saisir à bras le corps au travers d'une grande conférence nationale déclinée dans les régions. La transition écologique, c'est aussi favoriser les mobilités les mieux adaptées, de l'hydrogène au plan vélo, qui doit être poursuivi avec les moyens qui lui sont nécessaires.
L'écologie, ce n'est pas le problème, c'est la solution. On pourrait se dire, Théodore Talland, que c'est un discours positif, désirable, c'est le discours qu'il faut tenir, non, face à l'indifférence climatique.
Probablement, ce que je pense qui a frappé plutôt les commentateurs, c'est le temps qu'il a passé à parler d'environnement. Il en a parlé dans des termes qui sont assez généralistes. Quand on regarde le budget aussi, il y a assez peu d'investissement dans la question écologique. Je pense que de toute façon, je rebondis déjà sur ce terme d'indifférence climatique. L'indifférence, elle est surtout politique. Et je pense que François Bayrou, dans son discours, l'a un peu montré. Et en réalité, la réaction des divers partis politiques l'a montré aussi. Ça intéresse plus grand monde dans la sphère politique. En vrai, de la gauche à la droite, particulièrement à droite et extrême droite, mais quand même le centre et la gauche dédient de moins en moins de temps à la question écologique. Et il semblerait quand même que cette question-là, voilà, il a dû en parler pendant une minute, mais il est vite passé à autre chose.
Alors, on va parler des responsables politiques. Abordons d'abord le corps social français. Que nous disent les études, ces études qui ont paru récemment au sujet d'une indifférence climatique? Est-elle réelle? À quel point est-elle partagée par les Français?
En fait, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce thème d'indifférence climatique? Donc, en effet, les journalistes du Monde ont posé la question. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément répondu par la positive. Mais on a posé la question de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une indifférence climatique dans la société? Et en fait, ce qui a nourri cette réflexion-là, c'est qu'il y a un récent sondage mené par Ipsos avec un partenaire avec EDF qui a démontré que la très forte préoccupation était en recul et en reflux assez important dans la société. On est passé à près de 35% de la population qui était très préoccupée à seulement 29% en seulement un an. Donc ça a permis pas mal de commentateurs de dire peut-être qu'il y aurait une espèce d'indifférence à la question environnementale dans la société. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. Je pense que vous avez utilisé le terme de désengagement. Désengagement, c'est peut-être un peu plus approprié. Désengagement, ça voudrait dire que le sujet, il est toujours là, mais il est moins saillant. Et en fait, j'ai fait le jeu d'aller regarder dans le dictionnaire ce que voulait dire indifférence. Et indifférence, d'après le Larousse, c'est état, sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque chose ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelque chose.
Donc c'est un sujet extrêmement lointain, c'est ce qu'on laisserait entendre.
Voilà, et je pense qu'on n'est pas à ce niveau d'indifférence. Les gens n'en ont pas rien à faire de la question écologique. Ils ont simplement d'autres priorités, effectivement, qui sont apparues depuis deux ans, la guerre en Ukraine, la question du pouvoir d'achat, qui ont peut-être pris la place de l'environnement. C'est ce qui peut expliquer cette très forte préoccupation qui est en recul. Après, on garde quand même 29% qui sont très préoccupés. Et après, si on inclut ceux qui sont quand même préoccupés, ça compte quand même pas mal de citoyens. Et d'ailleurs, j'ai pris un autre sondage, le sondage de l'ADEME, qui pose aussi, c'est à peu près cette même question. Et il n'y a pas eu de baisse entre 2024 et 2020. 2023-2024. On est plutôt d'ailleurs resté à 33-34%. Donc ça reste une bataille de sondage. Il y a des chiffres qui vont vous faire dire une chose, d'autres chiffres qui vont vous faire dire autre chose. Et moi, ce que je préfère faire dans ces moments-là, ça va paraître un peu simple, mais dans le cadre de mon travail de recherche, c'est au lieu de se poser ces questions-là, c'est d'aller directement demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et du coup, je mène des entretiens sur le terrain. Et quand je parle avec des citoyens sur le terrain de la transition écologique, je sens pas, comme je le disais dans le cadre de la définition des intérêts, quelqu'un qui ne se sent pas concerné, pas touché, qui n'a aucun intérêt à la question. On sent effectivement qu'il y a d'autres préoccupations. On sent que la question écologique, elle est politisée et elle crée certaines craintes, mais on sent pas des citoyens complètement amorphes face à la transition écologique.
Alors, je vais me réapproprier votre terme, quand même, Théodore Talent, celui de désengagement. Est-ce que ce désengagement relatif, on l'a bien compris, est-ce qu'il concerne de la même façon l'ensemble de la société ou certains corps, certains sous-segments sont plus touchés que d'autres ?
Encore une fois, si on pose la question du désengagement, il faut qu'on pose la question de comment est-ce qu'on mesure le désengagement. Est-ce qu'on va le mesurer par le pourcentage de gens qui vont se dire préoccupés par un sujet ? Et là, on a quand même remarqué que la préoccupation, elle baissait après dans toutes les classes d'opinion. On voit qu'il y a des différences entre les partis de droite et de gauche, avec notamment un fort recul au sein des partis de gauche. Ce qui est pas si étonnant, parce que les chiffres étaient assez élevés, il y avait une grosse différence entre la gauche et la droite. Et étant donné que les partis de gauche, qui ont été historiquement plutôt moteurs sur la question, sont vraiment en train d'abandonner la question, on sent vraiment que l'électorat aussi répond en étant un petit peu moins préoccupé. Mais après, ce qui pose aussi la question de... Est-ce que finalement, ce qui compte le plus, c'est est-ce qu'on est préoccupé de manière générale par la question environnementale ou est-ce qu'on est en soutien de l'action écologique, vraiment sur le fond du problème ? Est-ce qu'on soutient la taxe carbone ? Est-ce qu'on soutient l'action environnementale plus ambitieuse ? Et là aussi, on peut avoir des images un petit peu différentes. On peut imaginer tout à fait logiquement que les personnes les plus précaires ou les plus en difficulté avec certains emplois, professions intermédiaires, employés, ouvriers, ont peut-être des difficultés plus importantes ces temps-ci, avec la crise du pouvoir d'achat notamment, qui a frappé la population en 2023 notamment. Donc là, on voit des reculs importants. Mais encore une fois, ça pose vraiment la question, et moi je le dis beaucoup, et ça peut paraître un peu des sujets techniques de chercheurs, mais je pense que la façon dont on va poser la question, et ce qu'on va considérer comme étant la mesure pertinente du soutien à la question environnementale, et ben en fait, elle va dépendre. Et si, je pense que si on pose la question de la taxe carbone ou de la préoccupation environnementale, on va avoir des analyses relativement différentes. Je pense que c'est un peu important d'avoir ça en tête.
Alors sur la question du désengagement, il y a plusieurs sources, plusieurs motifs possibles et imaginables. Il y a d'abord celui de la relativisation. C'est un peu le premier que vous avez laissé entendre. Il y a d'autres sujets qui nous concernent et qui sont arrivés au premier plan. La guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient, l'élection de Donald Trump et bien d'autres. Une autre possibilité, un autre motif, c'est peut-être aussi l'accoutumance. Au fond, on se fait peu à peu au monde dans lequel on vit et à la dégradation de la sphère qui nous entoure.
C'est vrai que ça, on le mesure aussi bien dans les sondages ou dans mes entretiens où je passe du temps, une heure, deux heures avec des gens où on parle justement de ces questions-là. Et on se rend compte que les citoyens, ils ont un peu la sensation que le sujet est là depuis un moment. On ne fait pas grand-chose pour y répondre. Donc, il ne faut pas croire que les citoyens pensent qu'on en fait trop. En réalité, les citoyens pensent plutôt que ça mesurait par sondage ou dans mes entretiens, qu'on en fait, on ne fait pas grand-chose sur la question. Les catastrophes, elles s'accumulent. On a l'impression que les partis politiques, à chaque fois, ils réagissent à la catastrophe, puis on passe à autre chose, et puis on met un chèque sur la table et on enchaîne un petit peu. En gros, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et du coup, je pense qu'on s'habitue à des catastrophes. On a conscience qu'elles vont augmenter, mais j'en parlais encore aujourd'hui avec mes étudiants dans un cours de gouvernance climat, justement, où même eux confessaient qu'ils avaient du mal à croire qu'en réalité, ça puisse vraiment être si catastrophique que ça. Et du coup, on se dit un peu, bon, chaque année, on nous dit que c'est l'année clé du climat. Chaque année, il y a des catastrophes et on passe un peu à autre chose. Et il semblerait que les personnalités politiques n'aient pas vraiment de réponse à apporter à cette question. Donc après, si on se met dans la place, dans les chaussures des différents citoyens de la société, on peut imaginer quand on a du mal à boucler ses fins de mois, quand on a des enfants, on a des contraintes, on a des problèmes d'emploi, des problèmes de mobilité. Bah, probablement que la catastrophe climatique qu'on nous annonce, elle entre pas en haut des priorités, surtout en l'absence de réponse. Et du coup, le mécanisme un peu cognitif de base, c'est de se dire, c'est important. Mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir régler ça à l'échelle de ma vie. Je ne vais pas pouvoir faire confiance à des personnalités politiques pour y répondre. Donc je vais baisser la pression sur ce sujet-là et me préoccuper du sujet qui m'intéresse à la fin du mois, c'est-à-dire mon pouvoir d'achat.
Est-ce qu'on n'est pas victime, par ailleurs, d'une mémoire environnementale, individuelle, collective, extrêmement faible, voire fragile ? C'est-à-dire que mois après mois, année après année, on oublierait la catastrophe qui vient de se dérouler ?
Très intéressant que vous utilisez ce terme de mémoire. J'en parlais récemment à un séminaire organisé par la Fondation Jaurès, justement avec cette étude-là. Et je disais, en fait, ce qui manque dans la transition écologique, c'est une sorte de politique mémorielle. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on se rappelle des attentats de Charlie Hebdo ? Pourquoi est-ce qu'on se rappelle, en fait, de tout ce qui fait les cicatrices que la société, elle, porte d'année en année, de décennie en décennie ? C'est parce qu'il y a des politiques mémorielles qui sont là pour nous rappeler qu'il y a 80 ans, il y a eu une guerre, qu'il y a 150 ans, il y a eu des guerres. Et en fait, il n'y a pas ça pour le climat. Or, en réalité, les catastrophes écologiques tuent des centaines, des milliers de gens dans le monde. La pollution de l'air, c'est 50 000 morts par an en Europe. On n'honore pas ces personnes-là. Donc, je veux pas, il n'y a pas de comparaison à faire entre les morts. Il n'y a pas de traitement-là qui vaut mieux que tel autre. Mais c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas ce travail mémoriel qui est mené par les États. européen ou extra-européen, de se dire en fait l'écologie c'est une question qui devrait nous occuper au quotidien, on devrait passer du temps à se rappeler qu'il y a des gens qui meurent. Pas juste de catastrophes climatiques, hein, ça peut être de pollution de l'eau. On voit beaucoup de reportages en ce moment sur les PFAS qui, dans les pollutions auxquelles on est tous exposés. Et on pourrait avoir ce travail mémoriel de se dire, en fait, il faut pas qu'on oublie Mayotte. On est déjà passé un peu à autre chose, mais à Mayotte, c'est toujours très vif. Enfin, très vif. Hein. Les gens, ils ont toujours pas de logement. Ça va prendre énormément de temps. Et avec.
Et c'est une catastrophe climatique.
Et c'est une catastrophe climatique. Et la réalité, c'est que la façon dont ça a été dépeint par les leaders politiques, c'est souvent que ah bah il y a une catastrophe. Et du coup, on réagit à la catastrophe. Mais il faut qu'on fasse ce lien constant, et c'est ça le travail d'une politique mémorielle écologique, ce serait de dire, mais en fait, la catastrophe, elle va se reproduire de manière exponentielle, il va falloir qu'on s'en rappelle et qu'on essaie de travailler sur ces morts, ces millions qui sont mis dans des bâtiments qu'on va devoir rénover, etc.
On va venir, hein, Théodore Talon, au responsable politique, je vous retiens encore un instant. Est-ce que la question du climato-scepticisme augmente quant à elle? Est-ce que les fausses idées véhiculées par les promoteurs du climato-scepticisme sont de plus en plus puissantes dans notre société?
Je vais répondre encore comme tout à l'heure en disant que ça dépend comment on mesure le climato-scepticisme. Est-ce que le climato-scepticisme, c'est considérer qu'il n'y a pas du tout de changement climatique? Ou est-ce que ça peut être de considérer qu'il y a un changement climatique qui n'est pas forcément d'origine humaine? On met souvent les deux ensemble parce que le climato-scepticisme dur, qui est vraiment il n'y a pas de changement climatique, c'est quelques pourcentages. Hein. L'ADEME, je crois que c'est 2%. Après, il y a effectivement, d'après l'ADEME, plus de 30% de la population qui considère qu'il y a un changement climatique, mais qui n'est pas d'origine humaine. Ça pose la question. Le chiffre, il évolue. D'après certains sondages, ça monte un petit peu, mais ça se stabilise relativement. Bon, c'est quelque chose qui devrait nous angoisser parce que c'est quand même, il faut rappeler aux auditeurs que le changement climatique n'est pas une opinion, est un fait scientifique. Il y a un consensus absolu au niveau mondial sur le fait que c'est un fait scientifique. On a quand même 30% de la société qui est sceptique. C'est un sujet qui est important, mais qu'on a tendance un tout petit peu à surestimer, parce qu'à la fin des fins, c'est pas parce qu'on est climato-sceptique qu'on serait pas prêt à passer à la voiture électrique, à rénover son logement, à s'adapter au changement climatique, parce qu'on considère quand même qu'il y a un changement climatique. Et c'est pas parce qu'on est conscient du changement climatique qu'on est pour autant prêt à agir. Donc le climato-scepticisme, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord sur le diagnostic pour être d'accord sur l'action. Mais je pense quand même qu'il faut pas surinvestir ce sujet-là, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont climato-sceptiques aussi par un mécanisme de protection. Il y a pas de solution, on n'en parle pas, donc du coup, bon, on va dire que c'est pas vraiment un sujet. Alors que si on arrivait avec des solutions, il est possible qu'en réalité, le climato-scepticisme baisse parce que les gens se rendent compte qu'ils peuvent croire dans changement climatique, parce qu'en fait, il y a des solutions qui sont associées.
Je précise d'un mot, hein, que l'ADEME, que vous avez déjà beaucoup cité, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Je voudrais vous faire entendre une voix, celle d'un mathématicien et économiste. Il a été président de l'Université Paris-Dauphine. Il s'appelle Evar Ekland.
D'abord, il y a le fait que les gens détestent entendre de mauvaises nouvelles et on repousse toujours à demain les choses désagréables. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de culture. De culture au sens... Le réchauffement climatique, c'est quand même un truc qui n'est pas si simple que ça. Il y a un bout de physique. Pourquoi est-ce que, quand on émet du gaz carbonique, ça réchauffe l'atmosphère? C'est pas évident. Ensuite, il y a des bouts d'économie. On va mettre une taxe carbone. À quoi sert la taxe carbone? En quoi ça va améliorer les choses? Et enfin, on met une taxe carbone et on a les gilets jaunes. Et les gilets jaunes disent, la taxe carbone, pourquoi pas? Mais pourquoi nous, on la paye et les gens qui prennent l'avion, on la paye pas? Ça, c'est des problèmes d'équité et des problèmes de droit. Donc, le réchauffement climatique, c'est un problème global. C'est ce qu'on appelle une culture, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation est cruciale.
Est-ce que c'est un bon point d'entrée, selon vous, Théodore Talon, pour comprendre cette indifférence, ce désengagement climatique? Il faut partir peut-être du manque de culture partagée au sein de la société française et bien au-delà sur les questions écologiques et climatiques.
Je suis partiellement d'accord et partiellement en désaccord. Je suis partiellement d'accord parce que c'est vrai que quand que ce soit dans les mesures de sondage ou moi dans les entretiens, je me rends compte assez facilement qu'effectivement, les gens n'ont pas forcément une vision extrêmement claire de ce qui cause le changement climatique. Ça peut m'arriver fréquemment que des gens me disent qu'une voiture thermique, finalement, ça n'a pas vraiment d'impact, alors qu'en réalité, c'est plutôt telle autre chose qui souvent ne les concerne pas, qui a un impact. Et forcément, la physique du climat n'est pas maîtrisée par tout le monde et la technicité des solutions n'est pas forcément maîtrisée par tout le monde. Après, la difficulté que j'ai avec ce type d'argument, c'est que ça donnerait l'impression qu'il suffirait en fait d'investir dans des grandes politiques d'éducation, d'information, de sensibilisation et on résoudrait le problème. Si une grande partie des citoyens ne comprennent pas dans le détail ces solutions, c'est d'abord parce qu'elles sont pas forcément bien expliquées par les personnalités politiques. Faut quand même admettre que dès qu'on parle de taxe carbone et qu'on se rappelle des gilets jaunes, la taxe carbone, elle a été posée comme ça. Et on a dit aux gens, bah voilà, taxe carbone. Mais faut qu'on, enfin, c'est aussi normal que les citoyens n'ont pas forcément une compréhension très claire de à quoi va servir la taxe carbone. Il y a des expérimentations qui sont menées par des collègues et par moi-même où on se rend compte que dès qu'on parle aux gens, clairement, on explique, on va en faire une taxe carbone et voilà à quoi sera vers quoi sera redistribué l'argent, à quoi il servira. Ben là, les gens sont beaucoup plus réceptifs, sont tout à fait d'accord à s'engager à la taxe carbone à 60-70%. Donc ça prouve aussi que c'est toujours un peu facile de dire que les gens ne comprennent pas, mais peut-être que si les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'on ne leur explique pas, premièrement. Et sur la physique du climat, beaucoup d'ailleurs de militants disent qu'en réalité, c'est pas si compliqué. C'est compliqué le détail de la physique du climat. Mais on n'a pas besoin de comprendre le détail de la physique du climat pour comprendre qu'en gros, les activités humaines émettent quelque chose qui s'appelle le CO2. Pour majoritairement, il y a aussi le méthane, mais le CO2, et que ça crée un réchauffement planétaire. Et à partir du moment où on est d'accord avec cette phrase relativement simple, que la majorité des gens ont compris, eh ben on peut déjà engager la transition écologique. Et dans les sondages, d'ailleurs, j'en regardais récemment, je crois que c'était encore celui de l'ADEME, qui posait la question de, selon vous, quel secteur d'activité émet le plus de CO2? Et quand même, les citoyens ont majoritairement une idée des secteurs qui émettent du CO2. Ils sont pas en train de vous expliquer que les voitures ont aucun impact, ni que les logements n'ont aucun impact. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Les citoyens, il faut leur expliquer aussi, mais c'est normal. Enfin, à un moment, c'est normal que si jamais on vous dit taxe carbone, vous comprenez pas forcément à quoi ça sert. Changement climatique, je pense qu'ils ont majoritairement compris. Et je reviens juste sur un point. Si jamais, par exemple, les gens pensent que le véhicule thermique n'a pas forcément d'impact, c'est aussi parce que comme ils n'ont pas d'alternative, ils vont légitimement se rassurer en se disant que la contrainte quotidienne de prendre un véhicule, il vaut mieux se rassurer en pensant que ce n'est pas forcément ça qui cause le changement climatique, qui, par ailleurs, crée de l'anxiété. Donc, du coup, là, logiquement, on se rassure. Mais je suis assez convaincu que si ces mêmes personnes avaient accès à un véhicule électrique pas cher, disponible et efficace, ils seraient probablement très d'accord à l'idée de se dire que le véhicule thermique n'est probablement pas une très bonne idée.
Pourquoi affirmez-vous, Théodore Talland, comme vous l'avez fait dans le journal Le Monde, que parler d'environnement est devenu coûteux politiquement? Qu'est-ce qui coûte politiquement lorsqu'on parle de climat, d'environnement en général?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement, pour parler un petit peu de ce que la science, les sciences sociales, dans ce cas-là, peuvent nous apprendre, il y a effectivement des travaux qui sont menés qui montrent que les politiques environnementales, parfois, si elles sont mal faites, ça peut être une zone à faible émission, ça peut être la transition industrielle complète des véhicules électriques, ça peut être le passage à des énergies renouvelables qu'on va déployer partout dans les territoires. Si elle est mal faite, sans l'incorporation de la vie des gens, sans des mécanismes de compensation, ça peut créer un retour de bâton et il peut y avoir des citoyens après, effectivement, qui se tournent vers l'extrême droite. Et
donc, du coup, c'est une étude qui avait été faite notamment à Milan sur les zones à faible émission.
Voilà, par exemple. Et pareil, il y a d'autres études qui ont été menées, il y en a de plus en plus, et qui montrent qu'en effet, ça peut mener à une hausse du vote d'extrême droite. Et du coup, légitimement, les partis au pouvoir, qui ne sont pas l'extrême droite, peuvent avoir un petit peu peur qu'une politique environnementale coûteuse, elle crée ce retour de bâton et une hausse du vote d'extrême droite. Ça, c'est quand même ce que quelques études démontrent qu'il faut bien prendre en compte, parce que ça prouve que si les politiques environnementales sont mal faites, elles peuvent créer un retour de bâton. Par contre, ça ne dit pas qu'une politique environnementale, par définition, crée un retour de bâton. Parce que cette même étude à Milan, une étude menée en Espagne, et j'en ai plein d'autres dans ma besace, nous montre que si jamais elles sont bien faites, les politiques environnementales, elles ne créent pas une hausse du vote d'extrême droite. C'est faux. Si c'est bien fait, d'ailleurs, souvent, l'avantage de la transition écologique, c'est que si c'est bien fait, ça améliore la santé, ça améliore le pouvoir d'achat, ça améliore la mobilité, ça améliore énormément de choses du quotidien. Donc en réalité, on va plutôt continuer à voter pour le parti au pouvoir qui a mis en place ces politiques qui résolvent les problèmes des gens. Et ensuite, ce qui fait que c'est coûteux, c'est parce qu'en fait, on a depuis, on va dire 2 ans, des partis de droite populistes, de droite radicale, avec de plus en plus le soutien de la droite conservatrice, qui sont en train de rendre ce sujet coûteux. En politisant cette question, en essayant de créer de la polarisation sur l'enjeu écologique, en expliquant que l'écologie est punitive, que c'est quelque chose imposé par Bruxelles ou par l'élite parisienne, en nous expliquant que la transition écologique, c'est contre les agriculteurs, qu'en réalité, les gens sont pas responsables, qu'on fait ça juste pour les embêter, que c'est pour des intérêts étrangers, et du coup, ils essayent de faire monter la sauce en créant dans l'opinion l'idée que la transition écologique, ce serait une mauvaise idée. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, les partis qui sont censés être plutôt des alliés de la question écologique, on irait du centre jusqu'à la gauche, à mon avis, sont assez réceptifs à ce discours et se disent « mince, si la droite radicale et conservatrice fait de ce sujet un vrai sujet politique, il vaut mieux probablement parler moins de ce sujet que s'engager dans un débat ». En réalité, moi, je pense qu'ils ont tort, parce que je pense que c'est justement en ne parlant pas de ce sujet, parce qu'en pensant que le sujet est coûteux, qu'on laisse l'extrême droite dérouler ses argumentaires.
Mais là-dessus, comment est-ce que vous l'objectivez, effectivement, le fait que certains partis alliés de la cause écologique, comme vous l'expliquez, donc en gros, si je caricature la gauche, se désengagent sur les sujets climatiques et les sujets écologiques? J'ai pas le sentiment, moi, en les écoutant, de les entendre moins parler de ces sujets.
Alors peut-être que c'est votre point de vue personnel, mais si on regarde les données, j'ai justement un collègue dans mon laboratoire.
C'est pour ça que je fais confiance aux données, mais je vous demande.
J'ai un collègue dans mon laboratoire qui justement a comme travail de travailler sur les discours politiques. Donc il étudie les manifestes politiques, les programmes politiques, les discours en ligne, etc. Et il montre qu'il y a effectivement depuis quelques années une baisse très importante du temps de l'espace qui est dédié à la question écologique. Donc du coup, grâce à ce collègue, mais j'ai aussi une collègue qui travaille là-dessus à Milan, il montre que le sujet est en train de devenir de moins en moins présent dans le discours politique. Il suffit de regarder pendant la campagne des européennes, si on se branche sur les débats, D'ailleurs, on peut le voir, on peut même le ressentir soi-même, que c'est un sujet qui était bien moins présent que dans les élections de 2019. Les sciences sociales nous permettent d'objectiver cela, mais on peut le ressentir soi-même, on se rend bien compte. Et d'ailleurs, les médias aussi en parlent moins. Et si les médias en parlent moins, c'est en partie parce que les partis politiques en parlent moins, en font moins un sujet, et qui préfèrent soit parler d'autres sujets, la droite et l'extrême droite, et maintenant de plus en plus le bloc central se mettent à parler beaucoup plus d'immigration, de pouvoir d'achat, et le bloc de gauche va parler plutôt de sujets très politiques nationaux, le temps engagé sur la question écologique.
La voix Théodore Talon de Donald Trump qui parle très 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 peu d'écologie, mais beaucoup d'énergie et d'économie.
Cette crise de l'inflation a été causée par trop de dépenses et par une explosion du prix de l'énergie. Voilà pourquoi je vais également déclarer un état d'urgence énergétique. Nous allons forer, forer et encore forer. Les États-Unis vont être une nation manufacturière à nouveau. Et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière n'aura jamais, à savoir la plus grande quantité de pétrole et de gaz au monde. Et nous allons nous en servir. Grâce à mes actions, nous allons mettre un terme au nouveau deal vert et nous allons révoquer ce mandat sur les véhicules électriques pour tenir ma promesse, la promesse que j'ai prise devant les constructeurs automobiles américains.
Comment mesurer cette fois, Théodore Talon, l'impact du discours, des discours tenus par Donald Trump sur les discours climatiques en Europe cette fois-ci ?
Pour l'instant, c'est très dur de le faire parce que Donald Trump vient d'arriver et il va falloir du temps aux sciences sociales pour pouvoir traiter toute cette donnée et se dire effectivement est-ce qu'on a vraiment senti un changement au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir, même on va dire à l'élection de Donald Trump. Mais je pense qu'on peut le voir au quotidien depuis l'élection de Donald Trump qui a deux mois, même avant ces discours-là, hein, qui sont des discours assez communs avec Donald Trump, on savait qu'il allait tenir ce genre de discours, on a quand même vu une espèce de libération de la parole en France et en Europe, allant du bloc central jusqu'à l'extrême droite en France et en Europe, qui commence à s'attaquer à des agences de l'État type ADEM. Je cite beaucoup les travaux parce que c'est les travaux.
C'est votre agence préférée.
Mais c'est une agence qui est absolument fondamentale.
Que certains voudraient supprimer d'ailleurs.
Exactement. Et certains, et il faut, c'est important de le dire, qu'ils sont pas que des partis d'extrême droite populistes, parce qu'on aimerait se dire, mais en fait c'est l'extrême droite populiste qui fait ça. Des partis de gouvernement, Valérie Pécresse, qui était quand même pas accusée comme étant la plus radicale de droite dans les primaires il y a quelques années, et ben en fait elle se dit même, il faut arrêter, il faut juste supprimer l'ADEM. Mais l'ADEM, en dehors du fait que...
Elle a proposé, je précise, elle a proposé de la supprimer pour des raisons budgétaires et de redispatcher le budget qui lui était alloué aux régions, notamment.
Mais l'erreur, en fait, c'est elle sait très bien, elle le sait très bien, mais l'ADEME investit tellement d'argent dans les régions, en partenariat avec les régions, qu'en réalité, ça ne sert à rien, c'est juste un symbole de dire « on va enlever l'agence de l'environnement ». Mais ça n'aurait pas été possible il y a 3-4 ans. Enfin, il faut se rappeler, il faut imaginer il y a 3-4 ans, au cœur du Green Deal, on n'aurait pas pu imaginer la présidente de la région Île-de-France, qui est quand même un cadre d'un parti de gouvernement, nous expliquer qu'il fallait supprimer l'agence de l'environnement. Quand on a un Premier ministre qui a fait toute sa carrière en étant justement une politique centriste, une politique où il y avait de la place pour l'écologie, c'était pas forcément un mouvement écologiste, mais il y avait de la place pour l'écologie, et qu'on a un Premier ministre qui attaque ses fonctionnaires de l'Office France et la Biodiversité pour défendre l'agriculture intensive. Encore une fois, je fais pas de ce sujet un sujet militant, mais c'est quand même significatif au temps, enfin à cette époque du backlash écologique, de voir qu'on a un parti de gouvernement, un Premier ministre considéré comme étant centriste, qui va s'attaquer à ses fonctionnaires de la biodiversité qui sont juste là pour nous assurer qu'on ait de l'eau potable et des écosystèmes qui juste permettent de continuer à pouvoir produire l'alimentation. Et il y a plein d'exemples aussi au niveau européen, où par exemple le reporting extra-financier est attaqué, la déforestation est aussi attaquée. On se dit bah, peut-être que nos régulations contre la déforestation sont trop ambitieuses. Le véhicule thermique, et en fait on est en train de se rendre compte, et je pense que l'élection de Donald Trump, malheureusement, elle va encore accélérer ça, elle légitime une partie des discours, on se dit oulala, si Donald Trump dit ça, la droite et l'extrême droite se disent qu'ils peuvent probablement le dire aussi. Et surtout, et là, c'est un sujet qui est assez stratégique, qui est que, est-ce qu'avec sa politique-là, on ne prend pas un risque, nous, en allant trop vite dans la transition écologique ? Et on commence à entendre cette petite musique-là, hein, y compris derrière la question écologique au niveau à Bruxelles, qui nous disent, attention, est-ce qu'on ne s'expose pas ? Je pense qu'ils ont tort, parce qu'en réalité, on est engagé dedans, mais qu'il vaut mieux qu'on aille très vite pour gagner la bataille industrielle. Mais c'est un petit peu la musique qu'on est en train d'entendre, là.
Vous mentionniez un peu plus tôt dans notre échange, Théodore Talon, des politiques réussies et moins réussies en matière écologique et climatique, hein. Vous fondiez notamment sur des études menées à Milan, menées en Espagne. C'est quoi, dans le fond, une politique publique réussie en matière d'écologie ?
Ben ça va dépendre. En fait, ça va dépendre du sujet auquel on s'attaque. Est-ce qu'on s'attaque à la mobilité ? Est-ce qu'on s'attaque au logement ? Est-ce qu'on s'attaque aux emplois ? Dans le cas de l'Espagne, je prends souvent cet exemple parce que c'est un exemple parfait du comment une politique d'emploi pour passer d'emplois carbonés à des emplois verts a été bien menée. pas ça. Donc c'était pour la décarbonation, enfin la fin des usines de charbon et des travailleurs du charbon, on essayait de les faire basculer vers d'autres emplois. Ça a fonctionné parce qu'il y a eu la participation, il y a eu l'implication citoyenne. Donc une transition écologique dans des politiques climatiques réussies, c'est une politique climatique déjà où on inclut les gens. Moi, je mène une autre expérimentation justement avec des collègues et dont mes collègues de Sciences Po, et on montre justement que pareil, si on dit aux gens, on va mettre une taxe carbone, ça va être coûteux, mais on va donner la parole aux gens pour qu'ils puissent proposer des idées au niveau de l'Assemblée nationale, ça fait augmenter le soutien. Ça peut paraître symbolique, mais en fait, c'est aussi dire aux gens, en fait, on va vous écouter, on va prendre en considération vos points de vue et on va vous accompagner dans la transition écologique.
Donc, c'est pas uniquement une politique publique qui génère, qui produit des résultats, c'est aussi une politique qui inclut, qui explique.
Exactement. Donc, il faut inclure et expliquer aux gens. Il faut penser les coûts de la transition. Les coûts de la transition, ils sont inégaux. Ils sont inégalement répartis entre les gens, en fonction des emplois, des revenus, etc. Mais aussi en fonction des territoires. Et vraiment, en fonction des territoires, j'insiste, parce que mes entretiens sont en zone rurale et c'est quand même un vrai sujet. Comment on va mettre en place des politiques pour inclure les coûts de la transition écologique? Par exemple, dans l'État de British Columbia au Canada, ils mettent en place un système où la taxe carbone, elle est directement redistribuée aux gens via des chèques. Donc, du coup, ça veut dire que si on n'a pas le choix, on paye pas plus cher. Par contre, si on a le choix, on peut passer à une autre mobilité, et on peut être accompagné. Donc, ça peut être aussi une manière de créer une transition écologique réussie.
Merci beaucoup, Théodore Talland, de ses explications et de la relativisation de ce concept, comme l'avait déjà fait l'article du journal Le Monde, d'ailleurs celui d'indifférence climatique. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Vous êtes enseignant et spécialiste des questions climatiques. Merci d'être venu ce soir dans Questions du Soir.